Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à Actualité économique du jour. C'est le jour de Fitch et Moody's. Bon, sur le plan technique, on devrait normalement être dégradé. C'est pas évident qu'on le soit. C'est quand même l'actualité économique du jour numéro un, évidemment. On a eu le rapport d'étape sur la désmicardisation. Si je le dis très rapidement, on est au bout de l'histoire et de la possibilité d'alléger les cotisations. Ça fait 30 ans qu'on le fait. On est allé vraiment au bout de ce processus. Comment faire autrement? Comment sortir de la trappe à bas salaire? Pourquoi il y a un rapport d'étape? Parce que le rapport final n'apportera pas de solution miracle, car il n'y a pas de solution miracle. Ce sera forcément compliqué. Il y aura forcément des perdants, il y aura forcément des gagnants. Personne ne sait comment on fait pour en sortir. Ça fait une semaine que l'union des marchés de capitaux est tous les jours dans l'actualité, alors qu'on n'en parlait plus du tout. Et ça nous est présenté encore hier dans le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron comme une sorte de solution, le miracle qui nous relancera dans la compétition Chine-USA. On verra si véritablement on peut miser là-dessus. Il y a la question de la titrisation qui a laissé des mauvais souvenirs après la crise de 2008. La Banque mondiale ne pense pas que l'inflation est vaincue, là où tout le monde s'imagine qu'elle est en train de rentrer dans son lit, on en dira un mot. Bon, après, il y a plein d'autres petits sujets, s'il nous reste du temps, on verra tout ça. Bonjour Sylvie Matera.
Bonjour.
Bienvenue, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazars. Frédéric Farah, bonjour.
Bonjour.
Économiste, enseignant à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Fitch, Moody's. Alors je dis oui, techniquement, normalement, on est dégradé. Normalement, une agence dégrade si on a 10 points de détérioration de ratio de PIB. Non ?
Non. Il n'y a aucun automatisme. Il n'y a aucun automatisme dans les agences de notation.
J'avais vu que si on avait 10 points...
Non. Les agences de notation donnent une évaluation de la capacité des emprunteurs à rembourser en temps et en heure.
Oui.
C'est une évaluation. Il n'y a absolument rien de mécanique dans ce qu'ils font, même si, évidemment, c'est déterminé par toute une série de ratios. Mais, in fine, il y a un comité qui décide dans chaque agence de notation, pour chaque notation, la variation ou non de cette note.
En fait, vous avez raison de me corriger. Je disais ça parce que quand on regarde le track record, le passé, généralement, quand vous avez sur la période une forte dégradation de ratio de dette sur PIB, vous avez beaucoup de chances d'être dégradé. 2019-2023, on se prend 13 points. Voilà. On dépasse les 10 points qui sont une sorte de boussole, mais d'accord, c'est bon. Comment vous regardez cette journée, Sylvie Matera? Alors, Edwige Chevrillon recevait Bruno Le Maire avant-hier, je suis serein. Bah, évidemment, il ne va pas dire que je suis hyper inquiet, je ne dors plus.
Je pense que c'est déjà intégré. Je pense que le scoop, ça serait qu'on ne soit pas dégradé, en fait.
Ah, parce que vous pensez qu'on va être dégradé?
Bah oui, je crois. Et je pense, mais je ne suis pas la seule à le penser, hein. Les marchés l'ont intégré, déjà. Oui, c'est pour ça que si on est dégradé, je pense que... C'est pour ça aussi que je dis que le scoop, ce serait qu'on ne le soit pas. Parce que comme les marchés l'ont déjà intégré, je pense qu'en termes financiers, il n'y aura pas tellement d'impact immédiat. En théorie, quand on est dégradé, notre dette, la valeur de notre dette se déprécie. Mmh. Et donc, pour trouver des investisseurs attirés par cette dette dont la valeur a diminué, il faut payer plus cher.
On monte le rendement.
Il faut payer plus cher. Et comme on est très endetté, si on doit payer plus cher, c'est quand même un peu problématique. Mais cela étant, comme ça a déjà été intégré dans les marchés, je ne pense pas qu'il y aura des conséquences financières.
Mais ils n'ont rien intégré importantes. Du tout, Sylvie, les marchés. On n'a pas bougé avec le spread du Bund. Il n'y a pas eu de changement.
Ce qui est important aussi, c'est la liquidité de cette dette. Les investisseurs vont sur une dette parce que, d'abord, elle a un rendement attractif. Donc, quand elle a un rendement attractif, ça attire plus de gens. Donc là, c'est l'effet inverse. Et puis aussi, ils sont attirés parce que cette dette, elle est, vu sa taille, elle est très liquide.
On peut l'acheter et la vendre du matin au soir sans difficulté.
Donc, il y a un marché assez important. Donc, en termes impact financier direct, je ne pense pas que ça ait un énorme impact financier direct. Maintenant, il y a un impact de réputation, d'image. Il va y avoir aussi des impacts financiers indirects quand vous avez des contraintes qui sont indexées, enfin qui sont liées au rating français, notamment des garanties qui peuvent être demandées aux banques sur les marchés financiers internationaux. Donc, des impacts indirects. Donc, de toute façon, c'est pas une bonne chose, certes.
Bah, j'avais cru comprendre, c'est un peu du sous-texte qu'il n'allait peut-être pas forcément dégrader, mais réviser la recommandation qui peut passer de stable à négative.
Voilà. Bah, quand on est en recommandation négative, c'est-à-dire qu'on a une chance d'être dégradé dans les 6 prochains mois.
Je rappelle qu'il y a chez chaque agence une grosse vingtaine de notes dans la grille. Quand j'ai regardé Moody's, vous avez 4 très bons niveaux, c'est le triple A, puis il y a 3 échelons double A, le AA1. Nous, on est AA2, donc on est 3e niveau, puis il y a AA3, avant de tomber dans les 3 échelons où il y a simplement un seul A. Là, c'est encore acceptable, mais c'est moins bon. Jean-Marc.
Les triple A, il y en a très, oui. très peu.
Hein. Oui, je sais qu'il y en a très
donc,
peu.
Donc, on est quand même, et même s'il y a une dégradation, on restera quand même dans des zones très positives. Ah, il ne faut pas que les gens s'affolent non plus.
Non, absolument.
On reste dans des zones qui sont très positives.
Si on tombe à double A3, on est à un niveau jugé très bon, voilà.
Exactement.
Bon, faut le rappeler,
on passera de très 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 bon à très 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 bon.
On passera de 17 sur 20, 18 sur 20 à 16 sur 20.
Voilà.
Bon, mais ça reste mention très bien.
C'est pas encore la fin du monde. Hein.
Même lecture, Jean-Marc, de la journée, là.
Ben, si on regardait les métriques, la France aurait dû être dégradée depuis déjà plusieurs semestres. Si vous regardez tous les pays qui ont la même notation que la France, ils ont des ratios de dette et de déficit public qui sont sensiblement plus favorables que ceux de la France. Et si vous regardez tous les pays qui ont les mêmes ratio que la France, ils ont des notations qui sont sensiblement inférieures à celles de la France. Et quand vous lisez les attendus, hein, parce que les agences de notation justifient leur évaluation, il y a 2 points qui expliquent que cette spécificité française. Donc il y a bien un jugement, hein, c'est pour ça que je me permettais d'insister.
Non, mais vous avez eu totalement raison. Au début.
Et donc, vous connaissez la maison, la parole est libre. Hein.
La première raison, c'est la solidité des institutions françaises. Alors ça, on peut se poser une vraie question sur cette solidité. Hein. On voit bien que le fonctionnement de la mécanique institutionnelle française est de plus en plus laborieux. Il y a de plus en plus de grains de sable. Si vous regardez les relations entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, on voit bien que c'est... Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Mais pour l'instant, les agences de notation continuent dans leur ensemble à juger que ces institutions sont solides et plus que dans la plupart des autres pays. Et la deuxième raison, alors qui va vous paraître peut-être un petit peu étrange, mais qui est, je pense, bien réelle, c'est qu'on a un consentement très très fort à l'impôt et à la cotisation sociale. Alors ça paraît bizarre, hein, parce que dès qu'il y a une hausse d'impôts, ça râle de partout et tout.
Mais, mauvaise humeur fiscale.
Mais si vous faites de la comparaison internationale, vous voyez bien qu'il y a une vraie différence entre la France et les autres pays sur ce point-là. Et ça, pour l'instant, ça dure. Moi, je suis prêt à argumenter que la France pourrait payer sensiblement, les Français seraient prêts à payer sensiblement plus d'impôts s'il y avait une efficacité plus grande de la dépense publique. Et donc, il y a ce consentement. Et ce consentement-là, il reste. Et c'est ce qui explique que... Mais ça ne veut pas dire que la notation de la dette publique française, hein, c'est pas la France qui va être dégradée, hein, c'est la notation de la dette publique de la France. Les mots ont leur importance. Risque effectivement d'être dégradée à tout moment quand on voit les tendances.
Mais là, pour vous, ce soir, Fitch et Moody's nous baissent d'un cran aussi ou juste jouent sur la perspective?
Je ne sais pas. Bon. Ça sera entre les deux.
Alors, je mets une question de plus pour vous permettre de réagir, Frédéric Farr. On a presque tout dit. Mais est-ce que, en fait, il y en a beaucoup qui me disent, faudrait une bonne dégradation pour provoquer un électrochoc. Là. Ça y est, enfin, on va se travailler sur la réforme de l'État, toujours promise, jamais réalisée. Enfin, le mot efficacité va apparaître.
Alors moi la théorie de l'électrochoc, ce genre de truc, j'y crois pas. Du genre, il faut un choc de simplification, fiscal.
C'est vrai que ça commence à bien faire.
Je commence à être fatigué. C'est toujours les mêmes mots avec qui sont inconsistants. Alors ça fait joli, ça fait beau. Oh, le choc, tout le monde croit que. Non, je pense que dans cette affaire, la seule conséquence, elle sera politique, c'est-à-dire par rapport au gouvernement et à sa situation, par rapport donc aux européennes qui arrivent, par rapport à 2027. Les conséquences économiques, elles ont été parfaitement dites, c'est-à-dire elles sont presque dérisoires. L'agence France Trésor place notre dette, très bien, elle fait très bien le job, et personne ne s'en inquiète, elle fait ça très très bien, donc je pense que personne ne se dit oui, là, l'agence France Trésor est dans une situation inquiétante, il n'arrivera plus à la placer. Deux, l'épargne qui est en Europe, qui est abondante, trouve souvent dans la dette publique un débouché, ça c'est une évidence, hein. Donc et le débouché pour cette épargne, c'est d'acheter des titres de la dette. On nous a fait la même trouille, encore pire, avec les Italiens, italiens en nous disant oh, la dette italienne, la crise européenne, elle va arriver par là. En plus, chaque fois on nous avait fait peur, on nous a dit il y a eu un gouvernement qui était un peu 5 étoiles plus les ligues, on a dit c'était épouvantable. Maintenant l'extrême droite arrive, on dit oh là là, c'est épouvantable, il se passe toujours rien. Donc
c'est vrai en plus.
Non, mais voilà, on en raconte toujours.
Merci BCE, objectivement.
Voilà. Et on sait très bien que allez, même si on choisissait le scénario de l'apocalypse, allez, en faisons-nous peur parce qu'on n'a pas envie de dormir, donc l'apocalypse c'est bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Nouvelle tempête sur les dettes souveraines en Europe. Qu'est-ce que vous croyez? Que la Banque Centrale Européenne regarde comme ça et dit, bon, on ne fait rien, on fait la vache qui regarde passer le train? Bien sûr que non. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les dettes publiques restent des titres attractifs. Ouais. Voilà.
Alors, il y a un aspect technique que vous connaissez tous, qui a été rappelé tout à l'heure, c'est que tous les acteurs financiers, les banques, les assureurs, ont des espèces de grilles, j'achète ou j'achète pas en fonction des notations, et peuvent se retrouver avec des notes dégradées en dessous d'un certain niveau, à devoir en acheter moins ou ne plus en acheter. Bon. Mais oui, ça reste la dette. Oui, Jean-Marc.
Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que les agents de notation avaient commencé à dégrader la notation grecque?
J'ai envie de vous dire, ça doit être 2009-10
2004,
elle dégrade la Grèce.
Elle commence à dégrader, les agents de notation commencent à dégrader la dette publique grecque en 2004.
Oui, mais aussi...
Ça n'a rien changé pendant... On a continué à acheter de la dette grecque pendant ces fameuses 6 années, là, comme si c'était de la dette allemande, alors que des signaux avaient été envoyés.
On peut aussi dire, alors puisqu'on est dans les souvenirs de cette histoire...
il aime l'histoire économique. Si vous le lancez...
Moi, j'ai la passion de l'histoire économique, je vous le dis. Une passion totale, absolue et générale, et qui se renouvelle d'année en année avec toujours plus de force. Donc, je me souviens des perspectives de l'OCDE 2007 sur la Grèce. Quand on lit, c'est dithyrambique. On nous dit que c'est absolument génial.
2007,
on nous a expliqué que les réformes avaient été faites par le gouvernement de Simitis pour préparer les Jeux Olympiques, qu'il y avait fait tout ce qui était nécessaire, que les perspectives de croissance étaient fantastiques. C'est l'OCDE qui se dit ça. Bon, très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence. Relisez-les, 2007, ce que dit l'OCDE sur la Grèce, c'est formidable. Donc voilà, donc c'est génial. C'est que du bonheur.
C'est vrai que quelquefois, quand on relit des avis et qu'on voit comment l'histoire s'est écrite, il y a un côté un peu faillite des experts. C'est donc, pas la première fois.
Mais voilà, donc moi j'invite à y relire ça.
Bon, ça. Vous vouliez rajouter quelque chose, Sylvie, là, parce que je vous ai coupé la parole là.
Non, du coup, je m'en rappelle plus.
Bon, c'est moi qui suis responsable, Sylvie. C'est ma faute, Sylvie. Bon, je me retire de ce plateau sans plus tarder.
Juste sur l'histoire, de la mauvaise note qui va forcer l'élève à se réveiller. Ouais. Moi, j'ai un peu de mal à y croire. Je me souviens, il y a 30 ans, quand c'est un autre souvenir.
Merci.
Il y avait l'Algérie était dans ses heures les plus sombres et il y avait un humoriste algérien qui s'appelle Fellag qui avait dit quand on touche le fond, on croit qu'on va remonter, mais nous, on creuse. La mauvaise note qui force l'élève à changer, ça ne marche pas toujours.
Je rappelle un souvenir aussi, c'est le souvenir de 2013 où j'avais croisé le fer de manière un peu sèche, avec Pierre Moscovici qui était à Bercy, et on était sur Canal, chez Thierry Ardisson. Et puis c'était enregistré, moi j'aime pas tellement les trucs enregistrés parce que ça se monte. Enfin bon. Et on part dans la coulisse, et je lui dis, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est le taux. Il me dit, mais évidemment. Le matin on regarde, à midi on regarde, le soir on regarde que ça. Ça compte quand même ce taux d'intérêt.
Oui, mais
c'est pas
évidemment.
S'il y a un truc qui préoccupe aujourd'hui Bercy, c'est beaucoup plus le taux d'intérêt que de savoir si la perspective de croissance c'est 1 ou 0,8, je crois.
Il y a un petit lien entre les deux.
Oui, j'allais le dire.
Frédéric, oui.
Et puis sur ces affaires, il faut être très prudent. Moi, je prends encore le cas italien qui m'intéresse. L'Italie, en dehors de la question des taux d'intérêt, est en excédent primaire depuis fort longtemps. Donc, si on prend les choses au pied de la lettre, ça veut dire que c'est un bon élève, parce qu'il est en excédent primaire. Pourtant, ce bon élève n'est pas récompensé, puisqu'il doit payer des taux d'intérêt qui sont supérieurs. Donc, on pourrait dire que s'il y avait une logique dans cette histoire, eh bien, les Italiens, on devrait les applaudir des deux mains, au lieu de les critiquer de matin et soir, en disant, bravo, vous êtes en excédent primaire. Est-ce que c'est récompensé? Non.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique.
Bon, il n'y a pas de formule magique. Je veux dire, l'Italie est en excédent primaire.
Maintenant, maman
crie. La dette en pourcentage du PIB est quand même assez élevée.
Oui,
Sylvie, voilà. Sylvie, mais dans le.
Non, je disais qu'en Italie, il y a quand même des, voilà, d'autres indicateurs qui ne sont pas aussi bons. La dette en pourcentage du PIB, elle est quand même très élevée. Clairement. Plus que nous. On est à.
Oui. Et puis le déficit est à 7,5.
On doit être à 113 ou 115. Donc,
on est, nous, à 111.
Oui, j'allais dire 110, 111. Et eux, ils sont plus élevés.
Ils sont au-delà de 150.
Oui, et en plus, ce qu'il ne faut jamais oublier sur cette histoire de dette, même si c'est indirectement lié, qui fait que ça va être difficile d'agir dessus, c'est la grande crise européenne dont on parle peu, à mon avis, c'est la crise démographique. C'est-à-dire que l'Union européenne est pas simplement le vieux continent, mais c'est le continent des vieux. Bon, c'est-à-dire que il y a un vieillissement qui est très inquiétant. L'Italie ne fait plus d'enfants, le Portugal n'en fait plus. Nous, avant, jusqu'en 2013, ça allait, maintenant ça va plus. Et ça... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans des populations qui vont être de plus en plus vieillissantes, sachant que le coût de la santé augmente plus on se rapproche de la fin de vie, eh ben, ça veut dire que la charge et les besoins en termes de financement vont être considérables. Et c'est marrant, dans toutes les crises, on parle de l'énergie, des chaînes de valeur qui s'allonge, patati patata, mais une incidence économique, c'est bien la crise démographique. Et on ne fait pas la même politique économique dans un pays qu'on va fabriquer plus de maisons de retraite que de crèches.
Alors ça, c'est totalement vrai, c'est énorme, et c'est très très important, et ça a aussi une incidence sur non, t'as dit les soins de santé, mais aussi la retraite.
Oui, bien sûr.
On a un mode de retraite par répartition, ça ne marche pas quand vous avez moins d'actifs et plus de retraités.
Voilà.
Ça ne marche pas.
Mais
c'est juste mathématique, c'est
et
pas
c'est
une
crise. Et c'est curieux que cette crise démographique, elle passe sous le radar.
Pas totalement, quand même, Frédéric.
Non, mais c'est vraiment... Et puis en plus, la croissance... Enfin, les modes de consommation sont complètement différents, donc le mode de croissance est...
Je suis d'accord, mais on parle quand même énormément... Chaque fois qu'on évoque les grands enjeux de dépenses publiques de demain, on vous met le numérique, on vous met le vert, on vous met la défense, on vous met les vieux.
Mais il faut rappeler que partout en Europe, c'est l'Italie...
Ah, mais c'est délirant, l'Italie.
Mais l'Italie, comment dire, quand on voit ses taux de fécondité, c'est parmi les plus bas depuis l'unification italienne.
Mais je suis d'accord, j'ai regardé, il y a une femme sur deux en âge d'avoir des enfants qui n'en a pas. Il y a David qui m'écrit, le consentement à l'impôt est un mythe français. Si vous ne payez pas vos impôts, on saisit vos comptes, voire on vous met en prison.
Oui, alors moi je...
C'était pas tellement
consentement à l'impôt, c'est l'efficacité à lever l'impôt. Et donc effectivement, si vous payez pas, bah il y a des mesures qui se mettent en place.
Non, mais on est bon pour lever l'impôt. Oui.
Donc c'est l'efficacité pour lever l'impôt. Donc l'État est efficace dans sa pour lever l'impôt, ce qui donne confiance en sa capacité à générer des...
C'est ce qu'on appelle gentiment la vie attire des tenteurs.
Ouais. J'aime bien l'idée de Jean-Marc.
Non, mais je pense que ça va au-delà. C'est vrai qu'il y a un conseil, il y a une efficacité très grande de l'État et des organismes de recouvrement, cotisation sociale. Il y a une très très grande efficacité. Il y a des taux de recouvrement qui sont de 96, 98, 99%. C'est plus fort que partout ailleurs.
Ouais.
Mais je pense qu'aussi derrière, il y a une attitude vis-à-vis de cet impôt qui est différente de ce qu'elle est ailleurs. Je pense qu'il y a les deux éléments qui entrent en ligne de compte.
J'aimerais bien, vous voyez, si on améliorait vraiment, il faudrait que l'efficacité de l'action de l'État soit hyper palpable et visible et indiscutable. À ce moment-là, est-ce que tout d'un coup, on serait d'accord pour avoir des impôts plus élevés?
C'était la question qu'avait posée François Hollande quand il était président de la République. Il avait dit, je ne sais plus, il y a 10 ou 20 ans, on avait 5 points de dépenses publiques, 5 points de PIB de dépenses publiques en moins. Est-ce que ça marchait moins bien?
Voilà. Ouais. Non, mais c'est une bonne question.
Pour l'instant, la dépense publique, elle n'est pas super, super efficace.
Non.
C'est plutôt vers ça qu'il faudrait axer l'amélioration, je pense.
J'ai l'aide qui m'écrit, l'intérêt de la séquence agence de notation d'aide publique est de mettre le sujet dans l'actualité, alors que d'habitude, tout le monde s'en fout. Seule possibilité que les curseurs bougent un peu, car les politiques ne réagissent que quand ça fait du bruit. C'est un peu l'idée de l'électrochoc. Bon, après. Avançons. 2 minutes 20, on marque une pause. Alors, je vais faire l'intro, et puis après l'intro, on marque la pause, et puis ensuite vous réagirez. Donc, on a eu deux économistes qui ont été chargés par Madame Borne, hein, Antoine Bozziaud et Étienne Wasmer, de réfléchir à l'idée de la fameuse trappe à bas salaire. La désmicardisation, c'est le mot qu'a utilisé Gabriel Attal dans son discours de politique générale. Clairement, il y a un sujet français. On le sait, le SMIC est le seul salaire indexé. Il a énormément progressé à plusieurs reprises en raison de la vague d'inflation, ce qui fait que des gens ont été rattrapés par le SMIC, parce qu'à un SMIC, vous êtes indexé, mais à 1,05 SMIC, vous n'êtes plus indexé. Et donc, vous faites rattraper par le SMIC. Et là, on a un sujet, c'est que on a 17% de la population qui est à 1 SMIC, et si on rajoute ceux qui sont de 1 à 1,6, j'ai pas trouvé le chiffre, ça fait du monde. Et donc, le premier constat du pré-rapport, c'est de dire, bah oui, il y a un sujet, parce qu'à un SMIC, le patron, il a en termes de cotisation dite patronale, bah, il a à peu près 7%. Et à 1,6, il est à 40%. Alors évidemment, tout ça, ça écrase tout, ça bloque tout. C'est la fameuse trappe à bas salaire. Le rapport nous dit, bon, ça fait 30 ans qu'on a lancé cette histoire. On arrête parce qu'on est allé au bout de l'histoire. Aujourd'hui, un patron en cotisation patronale à un SMIC, il ne paye plus que les accidents du travail et la maladie professionnelle. Oui. Alors, on peut en retirer encore, mais combien? On va aller en dessous de zéro? On va faire du crédit de je sais pas quoi parce qu'on n'aura plus du tout de cotisation. Et puis, il faut bien la payer, la santé. Il faut bien payer les retraites. Il faut bien payer l'assurance chômage. Il faut bien que quelqu'un paye. Donc, on est allé au bout de cette logique et on est dans cette fameuse trappe. Et alors, après, on aimerait avoir les solutions. Eh bien, les solutions crèvent pas les yeux. Et en fait, à mon avis, s'ils ont fait un rapport d'étape, c'est pour dire... Le rapport final, c'est en juin, mais vous attendez pas à des miracles. Parce que c'est une tuyauterie socio-fiscale, disent-ils. Tout se fera avec prudence et progressivité. Et puis, si on est à budget constant et prélèvement constant, on peut rien faire. Et puis, si on fait quelque chose, eh bien, il faudra accepter qu'il y ait des gagnants et des perdants. Moralité, c'est assez mal barré. Voilà. Alors, il y a deux, trois exemples étrangers vertueux, je vous en parlerai dans un instant. Mais c'est très facile de parler de désmicardisation dans un discours de politique générale. Maintenant, va ouvrir le capot pour regarder le moteur et commencer à connecter les durites. C'est là que les choses se compliquent comme souvent. Voilà, j'ai fait mon petit blabla. On se retrouve dans un instant. Réaction de mes invités.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Est-ce la bonne décision ou quelque chose?
Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Sylvie Matera, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazars. Frédéric Farah, économiste enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Alors le même LED me dit, on pourrait faire un référendum sur la dépense publique. Vous voulez financer le vert? Quelle dépense sociale êtes-vous prêt à réduire en face? Je ne sais pas si les référendums apportent des réponses à tous les sujets. Pour accepter une hausse d'impôts, il faudrait que l'État sache tenir tête aux contrôleurs aériens et autres cheminots. C'est ce que m'écrit Laurent R. Bon, très bien. Non, la séquence SNCF aérien, bon, je ne l'ai pas mise dans l'actu du jour, mais c'est la paix sociale, quoi qu'il en coûte. Quoi. J'ai fait la recette hier du combat social réussi.
Oui, alors là,
pourquoi vous vouliez réagir à ça, Sylvie Matera?
Oui, parce que en fait, je pense qu'il faut distinguer entre... le côté on demande un bonus, une prime, parce qu'on va être sur le pont de manière importante pendant une période assez longue. Et puis le côté on veut des réformes structurelles qui vont peser longtemps dans l'économie.
C'est le cas à la SNCF et chez les... Ouais. Dans l'aérien et la SNCF, c'est des améliorations de fin de carrière complètement dingo.
Ça, je trouve qu'effectivement, c'est pas bien de le discuter sur un coin de table pour éviter une grève au dernier moment. Mais le côté bonus, on en profite des bio.
Justement, les conducteurs du métro ont obtenu hier de l'RATP un bonus pouvant atteindre, alors c'est en fonction des lignes. Chaque ligne est une entité séparée du métro. Oui. Vous avez une ligne, c'est une famille syndicale, la 8 est la plus syndiquée, par exemple. Bon, jusqu'à 2 500 € bonus JO. Mais là, effectivement, c'est du one shot. Bon, j'ai fait ma présentation du pré-rapport, Jean-Marc Vittori. Moi, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de solution.
Alors d'abord, il faut même rappeler encore et toujours pourquoi est-ce qu'il y a eu ces baisses de cotisations sociales.
Depuis 93.
Depuis 90, hein, ça avait commencé quand Michel Rocard était Premier ministre. Et ça avait commencé parce qu'on avait une situation absolument dramatique de chômage des non qualifiés. Et que dans beaucoup d'entreprises, il n'y avait pas de recrutement de non-qualifiés parce que la production de ces non-qualifiés était inférieure au SMIC avec ses cotisations sociales.
C'est exactement ça.
Que depuis plus de 30 ans, on a baissé régulièrement les cotisations sociales au niveau du SMIC. À aboutir aujourd'hui à une situation qui devient extrêmement compliquée. Donc à partir de la situation actuelle, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, qui est tabou en France, c'est se dire, on n'a pas besoin du même SMIC à Paris et dans la Creuse. Hein. Et donc, il peut y avoir des ajustements structurels.
qui existaient avec le SMIC.
Le pire au SMIC.
Qui ont existé.
Qui ont existé. Oui,
avec le SMIC.
Qui ont existé avec le SMIC. Quand le SMIC a été créé en 1950, il y avait 6 zones. Et ça a été ensuite supprimé quand on est passé au SMIC en 1970.
70.
Hein, voilà. Donc,
attention, il y a Maître Capello.
Il y a Maître Capello qui veille. Bon, qui veille, les jeux de 20h sont avec nous.
La deuxième solution, c'est de dire, ce qui est terrible au SMIC, c'est qu'on y reste très longtemps.
Ah oui.
Et donc, on pourrait avoir un niveau inférieur pour la première année ou les deux premières années de vie active. C'est ce qui existe, par exemple, en Irlande.
On a essayé.
Il y a des pays. On a essayé, ça s'est très mal passé. Hein. C'était le CPE de Dominique de Villepin en 2006, c'est ça ?
Le contrat première embauche.
Le contrat première embauche.
J'étais au manif pour voir ce que ça donnait.
Donc ça s'est très mal passé. Ouais. Ensuite, si on regarde, moi je pense qu'il y a une seule vraie solution, mais qui est très très compliquée à mettre en œuvre, c'est basculer les cotisations, une partie des cotisations sur l'impôt.
Pourquoi c'est compliqué ?
C'est très compliqué parce que, alors là, pour le coup, il y a des millions de gagnants et surtout des millions de perdants.
Ah oui !
Et donc les millions de perdants.
Pour des raisons politiques.
Ils protestent. Ouais. Mais la bonne solution, et encore, si vous faites des comparaisons avec les pays qui ont choisi d'avoir des protections sociales très élevées, ce qui est un choix, une préférence collective qui est tout à fait acceptable pour toute une série de raisons. Dans ce cas-là, si vous regardez tous les pays qui ont fait ces choix-là, eh bien, cette protection sociale très forte, elle repose beaucoup plus sur l'impôt que sur la cotisation sociale. Et donc là, il y a une aberration française dont on ne cesse de payer le prix.
C'est l'une des grandes préconisations du livre de Bruno Le Maire. Alors je vous dis, la Suède, elle a fait un choix, perdant-gagnant, hein, mais elle a dit je concentre tout les allègements de cotises pour les salariés de moins de 25 ans. Ah ben voilà, et ça a fonctionné. Et sinon la Finlande a dit, je mets en place des exonérations par région. Pareil. Voilà. Et là où les taux de chômage sont les plus élevés, ça a donné des résultats. Mais alors, la liste des perdants est longue. Réaction Frédéric Farah, allez-y, oui, je vous laisse partir sur ce qui vous chante. Parce que
alors là-dessus, je vais essayer de ne pas être trop long.
Non, pas trop long. Pas trop long. Sinon, moi, je fais comme mes confrères des autres chaînes, je mets un compteur et à 1h40, je vous arrête la page.
Je vais être le plus rapide possible, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je vais essayer.
Alors, je veille. Hein.
Top chrono.
Top chrono.
Top chrono.
Alors, je reviens sur la perspective historique, puis ensuite le rapport, et ensuite la fiscalisation de la protection.
Oula, ça commence mal.
Ça commence mal. Donc, mais je vais essayer de faire en sorte que ça finisse bien, puisque ça commence mal.
Bon, alors allez-y.
Donc voilà. 1993, repartons de là. Il y a à la fois ce qu'on vient de dire, la destruction de travail peu qualifiée, parce que coûtait trop cher au SMIC par rapport à la productivité des individus. Mais arrive un deuxième événement qui est quand même un événement majeur pour la politique économique. Comment on a fait pour acheter de la paix sociale en France pendant longtemps ? On faisait de la dévaluation. Je rappelle, en 68, comment on fait ?
On les fait pas toutes, les dévaluations.
Non, les accords de Grenelle, et ensuite pour faire absorber la sauce, en août 69, on fait une dévaluation. Bon. Donc, comme on arrive, on ne peut plus dévaluer notre monnaie, donc la flexibilité perdue sur la monnaie doit être récupérée ailleurs. Donc doit être récupéré sur quoi ? Sur un autre prix, le prix du travail, c'est-à-dire sur le marché du travail. Donc, puisque désormais, marché unique, monnaie unique, la question qui prime en Europe, c'est la compétitivité. Dans la compétitivité prix, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a trois choses, il y a le coût de la production, le taux de change et les marges. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va agir sur le coût. Donc on va agir surtout sur les moins productifs, donc on se dit, on va devoir exonérer, parce que on ne peut plus jouer avec l'arme de la dévaluation, même avant l'euro, puisqu'on avait déjà dit qu'il fallait faire le franc fort. Souvenez-vous, il fallait qu'entre le mark et le franc, ça tourne autour de 4 francs. Bon. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? 93, partout en Europe, on fait de la flexibilité, on essaye de réduire le coût du travail, puisqu'on se retrouve avec une compétitivité nouvelle, puisque ceux qui ont choisi l'euro ne peuvent pas faire autrement. Donc résultat des courses, si on ne peut plus dévaluer la monnaie, il faut dévaluer le coût du travail. C'est logique, c'est mathématique, on ne peut pas faire autrement. Donc, résultat des courses, on se lance là-dedans. Et au même moment, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait un truc bizarre, parce que d'un côté, on va dire ça coûte moins cher le travail, on exonère, mais comme on fiscalise de l'autre côté, la montée en charge de la CSG de 90 à nos jours est considérable. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On subventionne du travail peu qualifié par l'impôt. Donc, on va d'un côté exonérer et de l'autre côté faire payer aux Français par la fiscalisation. Donc c'est une espèce de système complètement dingue. Et on essaye de se dire, tout le monde cotise, tout le monde doit faire d'exonération de cotisations sociales. C'est ce que ça coûte pour les finances publiques. Plus de 76 ou 72 milliards aujourd'hui,
on doit être 75
milliards, on doit être à peu près à ça. Donc, résultat des courses, ce que l'on exonère d'un côté, on va le faire payer en fiscalité de l'autre. Donc, on crée une espèce d'usine à gaz absolument folle. Et aujourd'hui, on se dit, mais comment faire? Parce que si on augmentait trop les salaires, on va se dire, ben, le problème du coût du travail. Donc, il faut agir sur la part socialisée. Mais agir sur la part socialisée, c'est-à-dire sur les cotisations, ben, on crée des usines à gaz absolument impossibles. Et finalement, le rapport lui-même dit, bon, ben, on touche plus à rien. Parce que, il y a une bombe, en fait, qui est cachée dans le truc.
C'est un peu ça, hein.
Et ouais. On va pas faire. Et donc, en fait, on ne sait pas comment faire pour acheter la paix sociale. Et aujourd'hui, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il devient le grand assureur de tout le monde, il assure la paix sociale, il fait en sorte de créer des prêts garantis quand il y a le Covid. Et de l'autre côté, on nous dit, il faut continuer à assurer la paix sociale, il faut continuer à exonérer, ça coûte très cher pour les finances publiques. Et de l'autre côté, on se dit, oh, aïe aïe aïe, Fitch ou Moody's va nous dégrader. Donc en fait, on est dans une espèce d'enfer et on n'est pas prêt d'en sortir.
Ça finit. Ça la fin heureuse.
Non mais ça finit. Non, il n'avait pas dit heureuse. Non. Il avait dit j'espère que ça finira bien.
J'étais synthétique.
Non, super synthétique. Vous savez, j'ai rien dit. J'avais même pas lancé de chrono.
Mais ça, en fait, on l'oublie parce que pense que sans vouloir jeter.
Non mais on va pas recommencer.
Non mais souvent dans la démonstration, on oublie quand. En fait, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Je dis juste ça. Lorsque on veut défendre en bon libéral le marché, on dit ce qui est important, c'est que ça soit flexible, de défendre la flexibilité. Et c'est marrant que, en étant dans ce libéralisme-là, certains défendent la rigidité monétaire. Donc c'est très drôle, d'un côté, de défendre la flexibilité, et de l'autre côté, trouver que la rigidité monétaire, c'est bien. Moi, je trouve que c'est un paradoxe. Mais comme dit Albert Camus, il ne faut pas surmonter ces contradictions, il faut les vivre.
Voilà.
Bon, j'avance ou vous voulez dire un mot là-dessus?
Oui, non. Moi, je suis beaucoup moins compétente que mes collègues sujets très économiques, mais on comprend bien pourquoi on est là. Le problème, c'est que il y a un vrai sujet aujourd'hui, puisque ce que dit ce rapport, c'est qu'il y a une espèce d'effet de cliquet qui fait qu'on ne bouge pas, on est complètement fossilisé dans cette situation, puisque ce que dit aussi ce rapport, j'ai trouvé ça intéressant, je n'avais pas cette échelle en tête, c'est que pour augmenter un salarié de 100 euros, ça coûte, dans cette situation actuelle, 500 euros à l'entreprise. Et donc, en fait, tout le monde est perdant. C'est perdant-perdant. Parce que le salarié, avoir 100 euros de plus et risquer de perdre le bénéfice de certaines aides...
Pas risquer, perdre une partie de prime d'activité, payer de l'IR en plus.
Et le chef d'entreprise, dépenser 500 euros pour donner quelque chose qui ne satisfait pas son salarié, c'est pas satisfaisant non plus.
C'est le chiffre,
donc, on est dans une situation perdant-perdant. Et certes, c'est pas facile d'en sortir, mais je pense qu'il faudra quand même s'il y a des perdants, envisager une sortie, parce qu'autrement, c'est une espèce de fossilisation d'une grande partie de l'économie des salariés.
Et le rapport dit même que pour qu'il y ait 100 vrais euros nets dans la poche du salarié, comme les premiers 100 euros, il lui reste à peu près, je crois, dans les 55 euros sur les 100 premiers euros, parce qu'il y a de l'IR et de la prime d'activité.
Oui, donc
en fait,
il faut
lui donner 200 balles pour qu'il en ait 100.
Mais 200 balles, si ça coûte 1000 euros
à
l'entreprise.
Vous avez tout résumé. Bon, on va... Vrai rapport. Je pense qu'ils l'ont publié par prudence, parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont s'en sortir un rapport.
Oui, mais enfin, c'est quand même une vraie question. On comprend pourquoi on est là, mais il faut quand même en sortir.
Oui, mais j'ai peur qu'on n'en sorte pas.
Mais non, mais voilà, j'ai posé la question à Gabriel Attal la semaine dernière sur BFM TV. Il était là, on m'avait demandé de faire la partie écho sur la déspicardisation. Je lui ai dit, OK, vous avez prononcé
le
mot.
Mais il a dit quoi?
J'attends le rapport Bozio. Ben voilà, j'attends le rapport Bozio parce que personne n'a la solution.
Mais il fait souvent ça. Et là, sur l'école, il dit, bon, j'ai demandé des experts, j'attends un rapport de trucs mûches. Bon, ben très bien, c'est bien.
Sylvie Matera, Union des marchés de capitaux. Alors, c'est merveilleux parce que c'est pas... UMC ne sont pas trois lettres qui sont sorties du chapeau en une semaine. Tous les jours...
Non, ça fait des années qu'on en parle.
Tous les jours, on en parle. Hier, Emmanuel Macron... Le rapport Noyer, qui était d'ailleurs ce matin invité de BFM Business, Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, dans sa sortie auprès des 27. C'est également dans la bouche de Mario Draghi qui prépare une note à peu près du même genre pour le mois de juin. Waouh, ça y est, c'est bon, l'union des marchés de capitaux, c'est la solution. On va réussir enfin à financer l'avenir de l'Europe, à tenir tête aux Chinois, aux Américains. On a l'impression que c'est le truc... Alpha Omega miracle qui est sorti du chapeau, alors que c'est pas le cas. En une semaine, on parle que de ça.
Vous dites qu'il y a vraiment... C'est quand même un sujet qui est sur la table depuis des années européen.
Alors, c'est sur lesquels il y a des blocages tout de même.
Il y a des blocages très très important de certains pays, bien évidemment, puisque dès qu'il s'agit de mettre quelque chose en commun, il faut que tout le monde soit d'accord. Et puis comme tout le monde n'est pas d'accord, et ben ça marche pas. Et mais c'est quand même, c'est pas la solution, mais c'est une des solutions qui permettrait effectivement. Nous, on a un problème de financement aujourd'hui en Europe, la transition économique, la transition écologique, la transition numérique, démographique. Donc on a des problèmes de financement. Or il se trouve qu'en même temps, on est quand même tous plus ou moins super endettés. Donc on a besoin d'argent, mais on n'en a pas. Et donc, comment faire? Il y a un endroit où il y a de l'argent, il y a l'épargne européenne, mais aussi des Français notamment, est très importante. Donc, une des idées, c'est comment canaliser cette épargne, cet argent qui est là, mais qui ne va pas pour le financement des besoins qui existent aujourd'hui. Et donc, une des solutions, ça serait de dire, bah, créons un marché où cette épargne pourrait être placée et donc permettre de financer ces investissements nécessaires.
C'est tout à fait ça et l'idée, donc, le marché unique de l'épargne.
Orienter. Alors, marché unique de l'épargne, veut dire qu'il fait un marché, donc qui est une harmonisation des règles, d'où certaines réticences, parce que certains pays ne veulent pas harmoniser leurs règles, qui est des produits européens. C'est une suggestion, Bruno Le Maire l'a repris en disant, d'ici à 2027, il nous faut un produit européen pour attirer cette épargne.
C'est le début du rapport.
Et il faut aussi que libérer un petit peu les capitaux financiers et notamment relancer et faire en sorte que les banques puissent être des acteurs qui permettent non pas de se substituer au financement de marché, mais d'aider au développement du financement de marché. Et une des idées qui est développée, c'est de dire il faudrait développer la titrisation.
Voilà.
Qui est, alors, qu'est-ce que la titrisation? La titrisation consiste à transformer en titres, c'est-à-dire en instruments qu'on pourrait acheter ou vendre, des choses qui ne sont pas liquides initialement. Et notamment, tout ce qui est dans les bilans des banques, les prêts. Quand une banque vous fait un prêt, en Europe, elle le garde à son bilan. L'idée, c'est de dire, plutôt que de le garder à son bilan, pourquoi ne pas le transformer en titre et le céder sur un marché? Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Quand vous regardez les statistiques américaines, en fait, on a une espèce de répartition du travail dans le monde financier où les banques ont en charge le face-à-face client, en quelque sorte, c'est-à-dire ils donnent les crédits, mais ils ne les gardent pas à leur bilan. Ils n'ont pas, c'est pas eux qui le financent. C'est-à-dire qu'ils le vendent sur un marché via la titrisation, ce qui fait qu'ils libèrent leur bilan pour pouvoir renégocier et accorder de nouveaux crédits. Donc nous, on est un petit peu bloqués parce que la partie face-à-face client, les banques le font, mais après, ça reste de leur bilan. Donc, en fait, elles ont moins de possibilités de financement de l'économie que les banques américaines parce qu'elles gardent.
Oui, mais ça suppose, Sylvie Matera, d'avoir quand même, de pas tomber dans les excès américains où la titrisation au moment des crédits hypothécaires a conduit à créer des titres pourris qui étaient tous labellisés AAA par une forme de convenance des grandes agences dont nous parlons.
Parce qu'ils ont vendu des titres qui n'étaient pas de bonne.
Ça suppose qu'on ait confiance.
Quand on fait des instruments qu'on va négocier sur un marché, c'est-à-dire quand on transforme les prêts en titres, si vous transformez des bons prêts en titres, vous n'avez pas de problème. Si vous transformez des mauvais prêts en titres, vous avez des problèmes. C'est bullshit it, bullshit out. Il n'y a pas de transformation magique. Et donc, ce qui s'est passé au moment de la crise, c'est qu'en fait, ils ont vendu des titres sur lesquels les sous-jacents, ce qu'on appelait ça les asset-backed securities, c'est-à-dire securities titres, garantis par des assets actifs. Donc, c'était des paquets d'actifs qu'on agrégeait ensemble et on faisait un titre qui représentait ces paquets d'actifs. Et dans ces paquets d'actifs, il y avait des trucs bien et des trucs pas bien. Et au moment où il y avait plus de trucs pas bien que de trucs bien, en fait, la valeur s'est effondrée.
J'avais appelé ça le syndrome du steak haché. Tu mets du bœuf pourri, tu vois un truc qui ressemble à du steak haché, sauf que c'est pourri.
Mais oui, surtout qu'ils ont prêté aux ninjas, vous vous souvenez?
Quoi? C'est quoi cette histoire?
Les ninjas? C'est ce qu'on appelle en langage américain les ninjas, c'est les no income, no job, no asset. On appelle ça les ninjas, c'est-à-dire qu'ils n'ont no income, no job, no asset. Voilà. Donc et en fait, comme c'était ceux qui avaient les prêts, ils n'avaient pas de revenus, ils n'avaient pas de boulot, ils n'avaient pas d'actifs.
Et c'est alors c'est ces prêts là qu'on a transformés en asset back, qu'on a vendu sur le marché.
Oui. C'est joli, je trouve, ninja.
Moi, je me souviens de l'époque où je me suis retrouvé. Je ne sais pas si Jean-Marc a vécu ça avec moi, mais cette crise financière qui nous est tombée dessus, avec tout cet univers du produit financier pour lesquels j'étais pas du tout expert. Il a fallu que j'apprenne ce que c'était qu'un CDS, comment ça fonctionnait, les credit default swaps, ces trucs-là.
Pour revenir au premier sujet de notre émission de ce matin, en fait, ce qui a aussi induit les gens en erreur, c'est que ces paquets de titrisation comme il y avait plein de choses et qu'on savait pas trop ce qu'il y avait dedans, ils ont demandé à des spécialistes de les noter. Ils ont demandé aux agences de notation de les noter. Et les agences de notation ont dit, bon, ça a l'air pas mal. Bah ça, il y a plus de steak bon que de steak pourri. Oui, et donc,
ça a été plus problématique que ça, parce que les agences de notation ont été consultées sur la fabrication des produits. Et donc là, il y a eu un vrai problème. Moi, j'ai posé la question au patron d'une des grandes agences de notation juste après. Donc sur la notation, il était assez à l'aise. Et quand je lui ai dit, mais vous n'avez pas aidé à fabriquer ces produits, là, c'était silence radio. Et là, il y a un vrai, il y a eu un vrai scandale.
Il y a eu une culpabilité. Et puis il y avait une sorte de, on allait vers du triple A à l'aveugle. Ça vient de Bank of America. Ça vient de JP Morgan. C'est bon, allez, c'est des grandes maisons.
Mais le problème, les gens qui achetaient ces titres, en fait, n'avaient pas la capacité de regarder tout ce qui était en dessous, enfin, évidemment, tous les actifs sous-jacents, et ils se fondaient sur le jugement de l'agence de notation.
C'est pour ça que je dis que si on va à fond en Europe sur ce genre de choses, il faut qu'il y ait vraiment un lien de confiance absolument indiscutable.
Mais enfin, quand même, puisque tu as mis l'histoire, les gens s'en souviennent un petit peu. C'est pour ça que la titrisation en Europe s'est pas vraiment développée, parce qu'il y avait une telle, enfin, outre le fait que les marchés restent très cloisonnés entre les différents pays européens, il y avait une telle peur de retourner vers les abus qu'on avait pu constater au moment de la grande crise financière que il n'y a pas eu d'appétence forte à le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a davantage pour une utilisation propre et plus simple.
On peut considérer que... Frédéric et puis Jean-Marc, et puis on n'aura plus beaucoup de temps, mais...
J'ai eu une hésitation de mémoire, mais je crois que le livre vert sur l'union des marchés de capitaux, c'est 2014 ou 2016 en Europe. Hein. Donc c'est un truc...
Quasi 10 ans.
C'est très vieux.
Ouais, qui a quasiment 10 ans. C'est un truc qui mais c'est vrai que cet arrière-plan, en plus, on évoquait ces souvenirs-là, c'était, il y avait la titrisation de la titrisation. Hein. C'est-à-dire, on est arrivé à un truc... j'adore ces trucs. Bon, mais... voilà.
Il a des plaisirs simples, Frédéric.
Vous savez, je me sens bien.
Allez-y, parce que Jean-Marc...
Le problème, je crois que c'est un climat de défiance qui fait que pour l'Union européenne, ce qui est très très difficile, c'est de mettre en œuvre ce genre de projet, parce qu'effectivement... à 27, on n'arrive à rien, en fait. C'est toujours la même chose. C'est comme hier, Monsieur Macron qui dit, très sympathiquement, il faudrait modifier le mandat de la BCE, il met de la décarbonation, de la croissance.
Oui,
mais il fait ça avec qui, comment, enfin, je sais pas. L'impression que l'Europe,
c'est un traité, donc je pense que c'est pas pour demain, quand même.
C'est pas pour demain. On a l'impression qu'on arrive, on dit, bon, vous êtes d'accord? Ok, on règle le truc. Donc, j'ai l'impression, et le problème, pourquoi cet enjeu est essentiel? Parce que n'oublions pas que souvent, cette épargne européenne a servi parfois à financer plus la croissance américaine que nos besoins. Je rappelle quand même, moment d'histoire, j'y tiens, etc., dans les années 90, pendant les années Clinton, l'épargne européenne est partie de ce côté des années Clinton, pendant que nous, on supportait, je sais pas si vous avez oublié, les taux d'intérêt réels qui étaient les nôtres dans les années 90 jusqu'à presque la fin de la décennie. C'était terrible, je veux dire. Et pendant ce temps, l'Amérique clintonienne crée 20 millions d'emplois. Donc c'est bien, hein.
Vous voulez dire un mot là-dessus?
Oui, l'union des marchés de capitaux, ça n'est pas une solution magique, mais c'est une pièce manquante, exactement, une grosse pièce manquante du puzzle européen. Ouais. On a fait l'union des marchés des biens, on a beaucoup avancé sur l'union des marchés des services, l'union des marchés des capitaux manque, et il y a des résistances, y compris françaises, hein, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, sur les avancées en la matière.
On peut dire que l'union bancaire, elle est achevée, Sylvie, aujourd'hui?
Non. Quasiment. Il manque un dernier pilier. L'union bancaire reposait sur 3 piliers, et il manque le dernier qui concerne la garantie des dépôts et qui se heurte aux mêmes résistances, c'est-à-dire que, pour faire simple, que les Allemands ne veulent pas payer les dépôts qui seraient en faillite dans d'autres pays européens. Oh, c'est très simple et très schématisé, et donc c'est le dernier pilier qui manque. Mais enfin, grosso modo, l'union bancaire a fait quand même énormément de progrès, et si on arrivait à ce stade-là sur l'union des marchés de capitaux, ça serait vraiment très très bien.
Le fonds justement de garantie et de résolution en France dit que ça y est, il est à 7,4 milliards, que c'est bon pour lui.
Oui, parce qu'en fait, c'est une question mathématique, c'est un pourcentage des dépôts qui sont assurés, et donc les montants nécessaires à cette assurance sont au fonds de garantie.
Avec 7,4 milliards, il ne faut pas qu'il y ait 2-3 grosses banques qui partent en même temps, hein, parce que ça ne sera pas suffisant.
2-3 grosses banques qui partent en même temps, on est dans une crise systémique, et donc les solutions sont d'une autre nature.
C'est Banque Centrale Européenne. C'est Mamie Christine qui était derrière, c'est Maman Christine qui est là pour tout, quoi, en fait. Un pays qui dérape, hop. Une grosse banque systémique qui dérape, hop.
Non, mais
on a mis une monnaie unique commune, donc il faut bien qu'elle soit gérée par quelqu'un.
Bah voilà. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on est un continent et une France très bien notée, puisqu'on a des institutions qui fonctionnent bien.
Alors écoutez, on a 4 minutes 30, vous choisissez, j'ai plein de trucs. Soit est-ce que Javier Milei, c'est l'homme qui a raison? Ça l'énerve, Sylvie. Privatisation, une forme de privatisation de la SNCF d'Éric Ciotti. On aurait fait de la politique dans les colonnes de l'opinion, parce qu'il trouve que c'est pas normal qu'une entreprise continue à coûter autant et avec une telle culture du blocage. Frédéric Farah.
Ça m'énerve, c'est les phrases.
C'est de la politique pure.
Oui.
Je vous dis la vérité, j'ai pensé à Jean-Marc Daniel. C'est son anniversaire aujourd'hui et je lui dis Jean-Marc, ton anniversaire, c'est la phrase de Ciotti, parce qu'il dit qu'il faut privatiser partout.
Oui, juste quelques mots là-dessus. Tout d'abord, ça m'énerve quand les politiques se lancent dans des termes et c'est vague. Par exemple, on a eu Gabriel Attal qui nous a dit qu'il faut lutter contre les rentes. Alors, on n'a jamais bien su ce que c'était économiquement, ça recouvrait quoi. C'était un mystère. Donc débrouille-toi avec, c'est les rentes, mais c'est l'air de faire bien.
Mais
il y a un rapport.
Si, c'est les rentes infra marginal de secteurs qui bénéficient d'une hausse du prix qu'ils ne contrôlent pas.
D'accord.
Mais
il pourrait être un peu précis quand il dit les choses. Bon. Là, maintenant, une forme de privatisation.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est une forme de privatisation? Alors, on vend quoi? On privatise quoi? On garde... Alors, en plus, c'est marrant, cette façon de faire, parce que, quand même, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui ont été oubliés historiquement. Alors moi, je vais refaire un peu d'histoire.
Ah oui, attention, on a 3 minutes. Si vous repartez en 1938,
Non, je repars pas en 38. C'est marrant que quand même, on a créé, dans le siège de la libéralisation des transports en Europe, quand on a commencé à déconstruire la SNCF, on a construit des usines à gaz.
Déconstruire la SNCF?
Mais bien sûr.
De quoi vous parlez?
Qu'est-ce que je veux dire par là? On l'a déconstruit la SNCF, c'est-à-dire qu'on a dit, il y a une partie qui doit être la gestion des infrastructures.
Oui. SNCF Réseau, SNCF Voyageurs. C'est pas de la déconstruction quand même.
Mais c'était pas. Parce que, comment dire, si on revient à l'époque où c'est un monopole et qu'il est réaffirmé à partir de 82, il n'y avait pas cette séparation.
Oui, non, ça je suis d'accord.
Cette séparation est née du fait de la libéralisation. Ensuite, on est un revenu pour partie dessus, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un système qui ne tenait pas. Et aujourd'hui, quel est le statut juridique de la SNCF?
Société anonyme à capitaux publics, qui n'existe pas.
Voilà, on a fabriqué, encore une fois, une usine à gaz.
Oui, ça n'existe
avant,
pas.
Comment ça fonctionnait économiquement, le régime de l'économie mixte française? Il y avait les EPIC et les EPA.
Oui, et ben on a fait la SACP.
Voilà, donc on a inventé des trucs. Donc, je rappelle qu'avant de réfléchir privatisation, nationalisation, c'est revenir sur des structures et des organisations qui deviennent totalement dingues.
Mais c'est vrai. Vous voulez dire un mot de ça? Parce que Frédéric s'est engouffré dans la brèche ferroviaire. Parce que là, 1 minute 40.
Non, mais sinon, voilà, parce que ce genre d'idée, ça va faire dérailler la SNCF.
Voilà. Wow.
C'était.
Vous devriez être journaliste. Sortie de piste pour la compagnie machin. SNCF déraille.
La SS déraille, voilà. Bien sûr. Mais je pense qu'il vaut mieux réfléchir de manière plus intéressante sur les conséquences et faire un bilan. Sur les grandes libéralisations des années 90 en Europe, on le voit sur le secteur de l'énergie, on le voit sur les transports, et se poser la question, est-ce que ce bilan est plutôt positif ou négatif, et se dire que se passe-t-il avec la SNCF? Mais j'ai l'impression que certaines personnes, quand elles raisonnent la SNCF, c'est comme si on était toujours en 82.
Non, mais ça va au-delà. On vit dans une mythologie ferroviaire incroyable.
C'est vrai.
Sur l'organisation, sur le social, sur le réseau, sur ce qui doit être desservi ou non. On est dans l'irréalité complète parce qu'on est dans un imaginaire. Moi, je suis toujours frappé quand il y a régulièrement sur le réseau social X, il y a des gens qui mettent la carte de la SNC, des réseaux, du réseau ferroviaire il y a un siècle. Donc, on a des petits trucs partout, des petites lignes partout. Et donc, les gens qui mettent ça disent c'était merveilleux. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ça? C'est pas le grand méchant capital qui a décidé de fermer plein de lignes. C'est des gens qui ont arrêté de prendre le train. Parce qu'ils ont eu des voitures, figurez-vous. C'est un truc dingue. Ils ont eu des... Voilà. Et jamais personne ne parle de ça. Donc, je pense que pour avancer sur le ferroviaire, il faut d'abord déconstruire cette mythologie. Et c'est pas Éric Ciotti en parlant d'une forme de privatisation qui y contribue.
Non. Oui, parce qu'on aurait pu aussi se rappeler le plan Fraissinet de 1879 aussi, qui disait qu'il fallait une gare dans chaque sous-préfecture.
Ouais. Et vous savez aussi pourquoi on a créé les départements? On a créé les départements parce que voilà, il fallait que chaque administré puisse être à moins d'une journée de cheval de son administration.
Voilà. Voilà.
Non, mais c'est génial.
C'est génial.
Moi, j'adore.
Ils sont toujours là.
Ouais, hein. Moi, je défends ça. C'est merveilleux.
Enfin, vous défendez l'histoire, vous défendez pas toutes les conneries.
Non, non, non. Je défends pas toutes les conneries. Mais oui. L'histoire économique est passionnante parce qu'elle nous rappelle combien de débats qui ont l'air. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, je dis ça très rapidement parce qu'il me reste 30 secondes.
Ah, mais finish, il y a marqué.
Finish, mais bon, je le dis quand même, c'est pas grave.
Allez, allez.
C'est-à-dire que, vous savez, avec le RSA, on a dit qu'il faut pousser à l'activité, les gens et tout. Quand vous replongez dans les débats à la Chambre britannique de 1834 sur l'abolition des lois des pauvres, il y a un député qui dit « Il faut supprimer la loi sur les pauvres pour exposer les pauvres au vent vif de la concurrence. »
Waouh. C'est la phrase de la fin de semaine. Sylvie Matera aujourd'hui, Frédéric Farah, Jean-Marc Vittori, on se retrouve lundi à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.